Yo, c'est Jordan, CMO de Germinal, et vous écoutez Conquête, le podcast qui part à la rencontre de ceux qui font le marketing d'aujourd'hui et qui s'aventurent à la conquête de nouveaux marchés. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de Conquête, mon invité est Raphaël Renaud, le CMO designer, c'est comme ça qu'on dit ?
Ouais, c'est ça.
CMO designer, ouais, chez CashBee. Comment ça va, Raphaël ?
Ça va très bien, merci beaucoup de m'accueillir.
Bah, c'est un plaisir. Pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter CashBee ?
Ouais, bien sûr. CashBee, c'est une application d'épargne. On aime dire que c'est le moyen le plus simple de mettre ton argent de côté aujourd'hui. C'est un peu fait pour les gens qui n'ont pas trop le temps de s'occuper de ce genre de choses habituellement. Le constat en fait de départ, c'était que l'épargne, c'est un peu l'orphelin de la digitalisation dans le monde de la finance. T'as plein de néobanques, de progrès délirants qui sont faits dans le secteur du paiement, du crédit, etc. En revanche, l'épargne, jusqu'à il y a peu de temps, c'était encore toujours assez chiant. C'est toujours associé dans l'inconscient collectif à des rendez-vous, des contrats épais comme ça, zéro accompagnement, des produits qu'on te vend un peu de force, alors qu'ils sont pas forcément toujours les meilleurs pour toi. Et c'est même aujourd'hui pire qu'avant, l'épargne, parce que ça rapporte beaucoup moins qu'il y a quelques années, à cause notamment de la politique de taux bas menée par la BCE, mais c'est un peu un autre débat. Et donc CashBee, dans ce contexte-là, qui est assez poussiéreux, essaie de proposer une app qui te permette d'épargner plus simplement, qui rémunère un peu mieux que la moyenne et qui soit aussi plus personnalisée. Je pense qu'on pourra en reparler après. Et donc comment ça fonctionne ? Ben, c'est assez simple, tu connectes ton compte bancaire à l'app, un peu à la manière d'un agrégateur de comptes comme il y en a pas mal, puis tu ouvres un compte d'épargne à ton nom chez une banque partenaire de CashBee. Ça prend...
Mais du coup, ça se fait au travers de l'app.
Ouais, tout se fait intégralement dans l'app. L'opération de A à Z, t'es pas censé quitter ton téléphone, ça prend 6 minutes, et une fois que c'est fait, l'app fait office en fait de pont entre ton compte courant d'un côté et un ou plusieurs comptes épargne de l'autre. Et l'objectif à terme, c'est de pouvoir donc faire ça avec plusieurs produits. Aujourd'hui, on n'en a qu'un seul de compte, qui est le compte rémunéré, qu'on appelle comme ça. Demain, on en aura d'autres, et ça te permettra en fait via l'app d'avoir une espèce de centre de pilotage de ton épargne, avec des projets plutôt court terme pour l'épargne de précaution, des projets plutôt long terme pour, j'en sais rien, financer un mariage, des études, les études de tes enfants selon le moment dans ta vie où tu te situes, et pourquoi pas de le faire avec des produits comme de l'immobilier, de l'or, de l'assurance vie, bref, il y a pas de limite. Un dernier point là-dessus, puisque c'est une question qui revient souvent, évidemment CashBee, c'est sécurisé. On est agréé par la Banque de France et je suis bien placé pour te dire que c'est pas un agrément facile à obtenir. Donc malgré l'aspect start-up, on est tout ce qui est de plus disons sérieux sur les données personnelles et la sécurité de tes fonds, parce qu'en fait sans ça nous on peut pas bosser quoi.
Ok, donc vous êtes donc le marché de l'épargne, c'est principalement les banques vos concurrents.
On n'aime pas trop dire que c'est nos concurrents parce qu'aujourd'hui, notre partenaire qui rémunère ton épargne dans CashBee, c'est une banque. Donc, elle, on la considère pas du tout comme un concurrent, mais plutôt comme un partenaire privilégié. En fait, notre concurrent, si tu veux, c'est plutôt le contexte actuel. Par exemple, le fait que le livret A soit tombé à 0,5% et que ça rapporte donc virtuellement rien si tu en déduis l'inflation. C'est le contexte contre lequel on essaie de se battre. Après, on a plein de gens avec qui on a envie de travailler. Aujourd'hui, on en a un, mais demain, on en aura plusieurs qui sont tout à fait capables de rémunérer l'épargne. Et nous, on veut se faire en fait plutôt que d'avoir une approche concurrente, l'intermédiaire entre des gens qui ont envie de mieux rémunérer leur argent et des banques qui ont envie d'avoir des dépôts et qui ont parfois un peu du mal à en collecter. Pour continuer sur cet exemple, nous, notre partenaire actuel, c'est MyMoneyBank, qui est l'ancienne banque General Electric, et qui, en fait, est une banque spécialisée dans le crédit conso. Et ces banques, dont tu ignorais peut-être l'existence jusqu'à aujourd'hui, mais il y en a pas mal de ce même
tout à
type,
fait.
C'est des banques qui n'ont pas pignon sur rue, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas un réseau d'agences, elles font pas ce qu'on appelle de la banque retail, où elles vont te vendre des cartes bleues, etc. Elles, ce qu'elles font, c'est qu'elles sont la plupart du temps adossées à une activité commerciale et qu'elles font du crédit pour servir ce secteur-là. Et donc, pour le faire, particulièrement depuis la crise de 2008, elles ont besoin d'un nombre considérable de dépôts. Parce que bah tu peux pas prêter de l'argent tant que t'as pas un minimum de sous dans tes caisses à toi. Pour vraiment la faire simple. Mais en gros c'est ça. Et en fait bah vu qu'elles n'ont pas pignon sur rue, elles ont beaucoup de mal à attirer des dépôts, en tout cas plus que la BNP par exemple. Et donc My Money Bank, et ben ils passent par des acteurs comme nous. Nous on leur amène une manne de dépôts et eux les rémunèrent plus cher en moyenne que la BNP ou que d'autres banques. Enfin, j'ai rien contre la BNP. Hein. Je donne ça purement à titre d'exemple. Et du coup, c'est un peu gagnant-gagnant, quoi, si tu veux. Et la beauté de tout ça, c'est que le business model qui est le nôtre, c'est justement celui d'être un apporteur d'affaires auprès de ces institutions financières. Et donc, nous, pour l'utilisateur, c'est relativement gratos parce qu'on prend pas de commission sur les intérêts que la banque va te verser ou quoi que ce soit. C'est la banque qui nous paye pour qu'on lui amène des clients. Donc c'est plutôt gagnant-gagnant-gagnant et c'est comme ça qu'on approche notre métier.
D'accord, donc en fait je vais essayer de résumer aussi, je reprends un peu les sujets de la concurrence etc, mais en fait si je comprends bien, vous évoluez dans un marché concurrentiel de la banque, puisque aujourd'hui l'épargne est majoritairement gérée par les banques. Ouais. Sauf que en fait vous êtes un, j'ai même envie de dire, vous êtes un outil qui vient se pluguer à une banque. J'ai déjà perdu le nom de la banque avec qui vous travaillez et qui vous êtes partenaire.
My Money Bank, ouais.
Ouais, My Money Bank. Donc vous êtes partenaire de My Money Bank. Eux, en fait, vous êtes un outil aussi pour eux. Donc en fait, vous êtes un outil qui leur donne un avantage compétitif sur leurs concurrents qui sont les banques. C'est un peu ça?
On pourrait dire ça, mais je vais même aller un peu plus loin pour reprendre l'exemple de la banque traditionnelle. La banque traditionnelle, qui est la pignon sur rue et qui est une grosse institution, elle, son excès de dépôt, elle doit le verser à la BCE tous les soirs. En gros, ça veut dire que l'argent qu'elle ne fait pas circuler et qui reste un peu en stand-by, elle doit le mettre à la BCE en sécurité, et ça, la BCE le facture aux banques. Donc en fait, une banque, sans rentrer dans un cours d'éco, d'ailleurs pour lequel je serais pas forcément pertinent comme prof, mais la banque, quand une grande banque de détail française doit déposer 50 milliards à la BCE et que la BCE lui facture 0,5 points là-dessus, bah, la banque, elle perd de l'argent. Donc, je dirais presque que on rend service à ces banques-là en les débarrassant des dépôts excédentaires dont elles n'ont absolument que faire et qu'on les passe à des gens qui, eux, en ont besoin pour opérer des actions, pour faire des opérations, pardon, de crédit.
Mais du coup, vous, votre focus numéro un, en fait, ce qui fait le succès d'une solution comme la vôtre, ça va être l'expérience client versus les autres expériences que on peut avoir avec l'épargne, on est d'accord?
Totalement. En fait, on a trois gros facteurs différenciants. Le premier, c'est qu'on essaie d'apporter des taux qui sont meilleurs. Et ça, on le fait pour les raisons que je t'ai expliquées auparavant.
Bien sûr.
Ouais. Le deuxième, c'est la simplicité d'utilisation. Et le meilleur exemple pour se le prouver, c'est vraiment d'essayer de s'inscrire. Ça prend 6 minutes et c'est, je pense, une expérience à nul autre pareil dans le secteur financier aujourd'hui, au moins sur le secteur de l'épargne, je veux dire. Ensuite, on essaye aussi de faire autre chose que les banques ne font pas assez à notre goût, c'est l'accompagnement. En fait, aujourd'hui, quand tu souscris à un contrat ou que tu ouvres un livret ou quoi que ce soit, une fois que c'est fait, il se passe plus grand-chose, si tu veux. La banque, elle te laisse tranquille. Nous, étant donné qu'on est branché à ton compte courant, encore une fois, de manière parfaitement confidentielle et sécurisée, j'insiste, en fait, l'ordi, le petit algorithme qu'on a dans l'app, il peut te faire des recommandations et te dire, bah là, par exemple, t'es vachement plus large que le mois dernier, donc peut-être que cet excédent de cash qui dort sur ton compte courant aujourd'hui, ce serait peut-être plus malin de le mettre de côté sur un compte qui te rapporte des intérêts. À l'inverse, quand on détecte que t'es en train d'approcher dangereusement la zone du découvert, nous ce qu'on te recommande, c'est rapatrie quelques deniers, comme ça t'évite de payer des agios, etc. Ça c'est l'exemple type qu'on qu'on utilise pour dire qu'on accompagne nos clients, et qu'on n'est pas simplement un compte que tu ouvres et ensuite il se passe plus rien. En réalité, il y a beaucoup, beaucoup d'autres occasions auxquelles on essaie de communiquer avec nos clients, dont certaines sont ce qu'on appelle la gamification, mais c'est un terme que j'aime pas trop. Dans certaines sont un peu du coaching où on va te dire bah c'est super, ça fait 3 mois d'affilée que t'as mis de côté, tu progresses, parce qu'il y a aussi un autre gros problème avec l'épargne. Au-delà des précédents cités, c'est que l'épargne c'est un truc dur à faire cognitivement, quoi.
Bien sûr.
Le cerveau humain n'est pas fait pour se dire, quand on lui file un billet de 100, mets-en 20 de côté. Toi, ton premier réflexe, ça va être qu'est-ce que je vais pouvoir trouver qui coûte précisément 100 €. Et voilà. Et ça, c'est aussi quelque chose contre lequel on se bat tous. Et même dans les pans de population qu'on pourrait anticiper comme étant éduqués financièrement, il y a beaucoup d'efforts à faire là-dessus. Donc, il y a aussi un peu de pédagogie qu'on essaie de faire dans l'app, etc.
Ok, hyper intéressant. En tout cas, bon, c'est quand même un gros marché et sur lequel il y a beaucoup de choses à faire, parce que effectivement, comme tu l'as dit, c'est quand même plutôt des démarches. Enfin, c'est un peu poussiéreux, comme tu disais. Donc, ouais, j'imagine qu'il y a de beaux challenges. Est-ce que tu peux nous parler de ton rôle, du coup, qui est CMO designer? Alors, parlons de cet intitulé.
Ouais, parlons de cet intitulé. Non, en fait, avant d'arriver chez Cashbee, j'étais responsable du design de marque chez Le Bon Coin. Donc, j'étais plus designer que marketeur à l'époque, mais en revanche, auparavant, j'avais fait des études en business, etc. Donc, je sais un peu faire les deux. J'aime aussi beaucoup faire les deux, ce qui est pas mal. Et aujourd'hui, chez Cashbee, je couvre de près ou de loin tout ce qui touche à l'expérience Cashbee. Donc, ça va du stade de prospect dans la définition marketing du terme, jusqu'à celui d'utilisateur régulier, mais ça implique du coup l'acquisition, la notoriété, la relation client, le support aussi un peu, et en plus de ça, ça inclut aussi tous les écrans de l'app et du site internet. Donc tout ce que tu vois, la face visible de Cashbee, de l'iceberg Cashbee, si tu veux. Il y a de grandes chances pour que je travaille un peu dessus. Évidemment, je le fais pas tout seul, mais en revanche, le design, si. Mais voilà un peu mon job en ce moment.
D'accord. Donc c'est toi directement qui fais des éléments de design.
Ouais. Ouais. Mais ce qui est d'ailleurs très bien parce que, mais ça c'est plus une conviction perso, mais le produit et la communication sont souvent des choses, enfin des groupes au sein d'une boîte qui sont assez peu communicants entre eux, si tu veux, parce qu'ils n'ont pas forcément toujours les mêmes objectifs non plus, mais ce qui est très important, je trouve, pour développer une marque sympa, etc., c'est d'avoir vraiment une continuité entre toutes les étapes du parcours client. Et quand tu racontes quelque chose qui est similaire sur la pub, sur l'email de bienvenue, sur les écrans de l'app, sur le courrier qu'on t'envoie pour l'ouverture de ton compte, et ce jusqu'à 2-3 ans d'ancienneté au sein de notre clientèle, ça c'est ce qui permet de développer des vrais trucs intéressants d'un point de vue com et image. Donc c'est aussi pour ça que j'aime bien cette double casquette, c'est que ce que tu vois dans l'app, c'est à mon sens très cohérent avec ce que tu vois sur le site et avec ce que tu vois sur nos pubs et avec ce que tu vois dans nos emails CRM ou quoi que ce soit, parce que c'est un peu tout pensé en même temps.
Oui, puis on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir, vous, la clé, ça va être l'expérience client. Donc en fait, là, la clé qui lie tout ce que tu viens de citer, c'est l'expérience client. Donc c'est normal qu'effectivement tu sois au point central de tout ça, vu que vous, bah, le design est vraiment une partie prenante intégrante de l'expérience de l'utilisateur et du fait qu'il va kiffer le service, quoi.
Ouais, exactement.
Ok, est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi votre stratégie marketing?
Alors, c'est quoi notre stratégie marketing? Je vais utiliser un terme un peu technique que je vais expliquer, mais le funnel marketing, c'est-à-dire le parcours de vie de la personne lambda jusqu'à ce qu'elle devienne graduellement de plus en plus intéressée par la boîte, puis qu'elle devienne à terme client. cette espèce de cheminement de la curiosité à l'acte d'achat. Nous, c'est quelque chose qu'on fait de enfin, ça a une forme un peu bizarre. C'est comme un entonnoir, pardon, non, pas un entonnoir, justement, un sablier inversé. C'est-à-dire que c'est très serré sur la partie haute, un peu plus large sur la partie centrale et re-très serré vers la fin. Habituellement, c'est un entonnoir, puisqu'on ratisse très très large et on va graduellement de plus en plus resserrer les mailles du filet pour que l'utilisateur convertisse en client. Nous, on le fait pas comme ça parce que faire de la notoriété, c'est quelque chose qui coûte terriblement cher quand on est une start-up. En tout cas, par les canaux habituels que sont la presse, les pubs, disons, qu'on appelle offline, donc à la télé, dans les journaux, dans les abribus, etc. Ça, c'est pas du tout des trucs qu'on peut se permettre aujourd'hui, et d'ailleurs, c'est pas forcément d'ailleurs les trucs qui sont les plus efficaces non plus. Et donc nous, on prend le parti de cibler très très serré des médias spécialisés chez lesquels on essaie de faire du contenu sponsorisé. C'est là qu'on développe l'awareness dans des bassins de population qui sont assez réduits, en tout cas à l'échelle de la France ou même simplement de la région parisienne, par exemple. Et ensuite, une fois que ces gens ont manifesté l'intérêt, etc., là, on va essayer de les retoucher avec des mécaniques plus larges, typiquement des pubs digitales, hein, donc ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être du display. Display étant les bannières web qu'on voit sur un certain nombre de sites, sur la plupart d'ailleurs des sites. Voilà, enfin un certain nombre de mécaniques de ce type-là. Et en fait, ensuite, étant donné qu'on ratissera un peu plus large, là, on essaie de déclencher le téléchargement de l'app. Et une fois que ça c'est fait, on resserre encore, puisque bah, naturellement, il va y avoir un peu de déperdition en cours de route, c'est normal. Et donc, plus le client avance jusqu'à l'ouverture du compte, plus on va le travailler avec des messages qui seront des messages automatisés pour partie et manuels pour l'autre, puisque ce sera géré aussi par le support. Et là-dedans, on fait de l'ultra personnalisé, quoi. Donc là, c'est plus du tout des messages génériques. C'est vraiment aux petits oignons, cas par cas presque. C'est un truc qui est assez important en fait pour nous. Parce que aussi c'est quelque chose que font pas très bien le reste du secteur, c'est qu'on essaye vraiment malgré notre aspect 100% digital de mettre de l'humain au maximum dans nos communications. Je parle vraiment de nos communications avec nos clients pour le coup, plus dans le cadre de la relation avec eux et pas forcément dans le cadre de nos pubs à l'extérieur, disons. Mais ça, on met un point d'honneur à ce que on ait un service client qui soit top. Parce que bah, c'est en fait tout simple, hein. Peu de monde le fait aussi bien, et ça c'est un gros facteur différenciant dans l'expérience client, on y revient toujours, sur lequel, enfin nous on a des clients qui nous disent « mais c'est incroyable, vous répondez dans la demi-heure, qu'est-ce que c'est que ce délire ?» enfin, Et même nous, on sait qu'il y a des gens qui font encore mieux que ça, hein, mais... Quand ton point de référence habituel, c'est ton conseiller dans ton agence bancaire qui te répond en pente avec le vent dans le dos 48 heures après, ça crée un peu de l'émerveillement, quoi. Donc voilà un peu notre stratégie, même si on expérimente beaucoup, hein, on n'est pas une startup qui a beaucoup d'ancienneté, donc on est aussi très dans l'expérimentation, mais c'est à peu près ça ce qu'on fait aujourd'hui.
Ok, et alors je vais revenir sur, notamment tu parlais de la presse spécialisée, etc. Moi, il y a une question que je me pose, c'est votre cœur de cible. Est-ce que c'est le français moyen ou est-ce que c'est le gros épargnant ?
Alors, notre cœur de cible, on va être très honnête, notre cœur de cible aujourd'hui, si je te fais un profil, un peu un persona de nos meilleurs clients, c'est plutôt quelqu'un qui a aux alentours de 40 ans, CSP++, le CSP++ voulant dire catégorie socio-professionnelle. CSP++, c'est un terme un peu galvaudé qu'on fout partout pour dire que en gros c'est quelqu'un qui est un peu au-dessus de la classe moyenne. Nous on s'adresse plus à des gens qui par nature ont de la capacité d'épargne, hein. C'est bête à dire mais c'est un peu ça. Donc aujourd'hui, quarantaine, très urbain, cadre sup plutôt, et ensuite aujourd'hui nous on est principalement en région parisienne, mais c'est plus parce que on fait tache d'huile, quoi, donc on on commence là où on est. Et puis que te dire d'autre sur notre cœur de cible? Non, ce que je peux te dire, c'est que le dépôt moyen par utilisateur, par client, il est de plus de 10 000 euros.
D'accord.
Donc c'est dominé.
Donc oui, effectivement, le fait de, je reviens sur la presse spécialisée, ça fait du coup sens par rapport à votre cible. Mais du coup, la presse spécialisée que vous allez toucher, c'est les échos, challenge, ce genre de presse-là?
Alors, on a fait du challenge, effectivement. Les échos, nous, on considère presque ça plus comme de la presse spécialisée, même si
c'est vrai.
Nous, je te donne un exemple qu'on fait beaucoup. C'est des newsletters. Il y a des gens qui écrivent des newsletters sur des sujets. Enfin, je vais pas t'expliquer à toi ce que c'est Substack et toutes ces choses-là, parce que je sais bien que c'est un peu ce que vous faites aussi chez Germinal. Mais en fait, tous ces micro-médias qui ont des audiences de quelques dizaines de milliers de personnes, parfois une centaine de milliers, si jamais vraiment ils ont bien grandi, ces gens-là, en fait, qui ont des petites audiences mais ultra engagées, et ben ça, c'est ce qu'on essaie d'aller trouver. Alors parfois, on a des bonnes surprises. Parfois, ça décolle d'un coup alors qu'on s'y attendait pas du tout et que c'était une audience de 10 000 personnes. Parfois, on ratisse un peu plus large, ça marche moins bien, on expérimente beaucoup. Mais ça, pour nous, c'est un peu ce que j'entends par médias spécialisés. On fait du public reportage chez du challenge, chez du le particulier
Forbes,
exactement. Mais on essaye d'aller encore un cran au-dessus dans le ciblage, parce que Forbes, j'en sais rien, mais peut-être qu'ils ont 10 millions de lecteurs par mois, si tu veux. Nous,
bien sûr.
Aujourd'hui, ça nous intéresse d'aller en toucher 500 000 parmi eux, et c'est déjà bien. Parce que, en fait, souvent, quand tu resserres à ce point, t'as des taux de réussite qui sont meilleurs.
Oui, et puis en plus de ça, vu que souvent tu vas payer au CPM, ça te permet de réduire les coûts, d'être
Exactement.
Beaucoup plus spécifique, etc. Donc oui, ça fait totalement sens. Ok, l'objectif principal du marketing chez vous, c'est quoi?
Alors nous, l'objectif principal, c'est on a évidemment une étoile polaire qui est le volume total de dépôt. Pour une raison simple, hein, c'est que plus on apporte des dépôts, mieux on est rémunéré par nos partenaires, donc c'est un peu ça qui nous fait notre chiffre d'affaires in fine. Mais on raisonne avec une KPI, enfin un indicateur de perf en gros qu'on suit de très près, qui est le coût par 1000 euros. En fait, on raisonne pas forcément, enfin si on raisonne en coût par nouveau client, mais c'est pas notre centre d'attention, c'est un truc qu'on surveille, mais c'est pas le truc qu'on surveille. Le truc qu'on surveille, c'est combien ça nous coûte de rapporter 1000 euros sur l'app. Et ça, en fait, c'est assez intéressant parce que ça nous empêche de tomber dans le travers du faut qu'on chope du client, faut qu'on chope du client. En fait, non, faut pas qu'on chope du client, faut qu'on chope le bon client. Voilà, et c'est un peu ça notre principal objectif. On en a plein d'autres, l'engagement sur les réseaux sociaux, le taux de rétention, la lifetime value et toutes ces petites finesses, mais aujourd'hui le principal c'est celui-là.
Ok, hyper intéressant. Vous avez une team sales?
Non, on n'a pas de team sales. Nous on est une app exclusivement B2C aujourd'hui. Ce qui signifie que, à l'exception des auto-entrepreneurs qui sont à la fois personnes morales et personnes physiques et donc qui peuvent ouvrir un compte en leur nom, en fait, à part ça et les monsieur et madame tout le monde, on n'a pas d'offre pro. On n'a pas d'offre pro en gros. Peut-être qu'un jour ce sera le cas, mais aujourd'hui nos sales c'est nos marketeurs en gros, puisque toi, n'importe qui dans la rue peut devenir client de Cashbee.
Mais par contre, vous avez une team support.
Ouais. Ouais.
Qui, en fait, font quand même, j'imagine, bien le taf de sales à certains moments.
Eh bah, ben, tout à fait. Alors, ça, pour le coup, c'est. Oui, alors, dans ce sens, notre team sales est un peu notre team support ou vice-versa. Ouais. Parce qu'en fait, le marché de l'épargne et de manière générale, tout ce qui touche à l'argent, c'est un truc qui s'inscrit un peu sur un temps plus long que le reste. On parle d'argent, ce qui signifie que les gens vont être parfois un peu plus précautionneux, ils vont y réfléchir à deux fois, à trois fois, ils vont être très curieux. Aussi, comme je le disais un peu plus tôt, c'est pas forcément un truc sur lequel les gens ont une éducation très forte. Donc, tu vas avoir des gens qui vont te poser la question, mais c'est quoi un taux d'intérêt? Enfin, je blague pas, hein, et c'est pas, nous, on en rit parce qu'on est dedans tous les jours, mais il y a des gens qui ont pas ce niveau de connaissance-là. Il y a des gens qui découvrent qu'un taux d'intérêt peut être brut ou net, qu'on peut payer des impôts sur son épargne. Bref, plein de choses qui font un peu partie de la vente aussi, puisqu'il faut que les gens soient parfaitement au clair sur ce qu'ils achètent, même s'ils n'achètent rien, mais sur ce qu'ils signent, avant de se mettre dedans. À ce titre, notre équipe support, elle fait pas mal de pédagogie pour rassurer les gens sur le fait qu'on est agréé Banque de France, pour donner des détails sur les délais de transfert qui sont très courts, mais parfois qui restent inquiétants pour certains. Enfin voilà, il y a effectivement plein d'occasions dans lesquelles ils tiennent ce rôle un peu de dernier rempart pour répondre à des questions, etc. Ça, c'est certain.
Ok, c'est pas la partie closing du job de sales, mais c'est le job de suivi, quoi.
C'est exactement ça. Nous, la partie closing, parce qu'il y a quand même une partie closing, on essaie de l'automatiser au maximum. Je te donne un exemple. L'utilisateur s'inscrit, il crée son profil, etc. Et là, il connecte sa banque. Bon, il y a un truc qui est un peu technique quand tu dois connecter ta banque, c'est que tu dois connaître ton numéro de compte chez ta banque. Et alors ça, à part quelques rares prodiges qui le connaissent par cœur, il y a assez peu de gens qui sont capables de te le sortir comme ça de tête, quoi. Donc ça, souvent, c'est un endroit où les gens, il y a un petit frein, et ils se disent « Ah, je l'ai à la maison sur un papier, je le ferai ensuite » ou je sais pas quoi. Mais souvent ils oublient, et donc là la partie closing, nous, elle va être automatisée parce qu'il va y avoir un petit logiciel qui regarde si il a passé l'étape d'après, et s'il l'a pas passé l'étape d'après, on lui fait un rappel, puis un, puis deux, etc. Toujours aussi en accompagnant ça de justement un message pour rassurer, rassurez-vous, on est sécurisé, tout est crypté, etc. Bref. Mais c'est aussi un peu ça, pour le coup, c'est un truc qu'on fait beaucoup, ouais. le marketing automation, l'envoi contextuel d'email selon la situation du client, pas seulement dans son parcours d'inscription mais aussi après, c'est un truc sur lequel on a, je sais pas, 70 campagnes qui tournent en permanence là aujourd'hui.
Excellent.
Ça veut pas dire qu'on harcèle nos clients, ça veut pas dire que tu vas recevoir
de... Oui, non, bien sûr, je me dis que vous devez quand même travailler sur le fait de pas les harceler, mais quand même d'atteindre vos résultats, quoi.
Ouais. Et tu sais, il y a des gens aussi qui juste prennent le temps de réfléchir ou qui oublient, et hier, on a eu un utilisateur qui a ouvert son compte, sachant que son premier login, c'est-à-dire le jour où il a téléchargé l'app, c'était en janvier. Donc il y a des... Ah oui, non, on a des gens qui prennent leur temps, mais voilà, mais l'important, c'est qu'ils viennent à la fin.
Ah ouais, mais ça veut dire que quand même, vous avez fait des rappels à cette personne depuis le mois de janvier, quoi.
Non, alors là, pour le coup, si jamais t'as pas converti dans les mois qui viennent, qui suivent ton inscription, on va pas te harceler ad vitam aeternam.
D'accord.
C'est elle qui d'elle-même a dû, je sais pas, voir un post LinkedIn, voir quelque chose dans la presse et qui s'est souvenue, ah oui, j'avais Cashbee. Je vais terminer mon
inscription. D'accord. Elle faisait du tri dans ses apps, elle s'est dit, mais mince, j'ai jamais connecté mon compte.
Exactement. Non, mais parfois c'est ça, ouais.
Ouais, non, mais j'imagine bien. Ok, est-ce que tu peux nous parler de tes canaux d'acquisition? Donc, t'as parlé de la presse. Après, tout à l'heure, tu disais comme quoi vous avez pas mal de canaux digitaux. Tu peux nous en parler?
Alors oui, on a un peu le bouquet classique. Hein. On fait des pubs sur les réseaux sociaux avec Facebook, Instagram, enfin maintenant qui sont d'ailleurs, là, c'est la même régie, Twitter, ouais. Un peu de LinkedIn, un peu de Google Ads, un peu de SEO. SEO, pour les non-marketeurs qui nous écoutent, c'est Search Engine Optimization, ce qui veut dire qu'en gros, on essaie de faire en sorte...
Référencement naturel. Ouais.
Voilà, référencement naturel. On essaie de faire en sorte que quand les gens tapent épargne, le nom Cashbee apparaisse le plus haut possible dans les résultats de recherche, en tout cas sur la première page. Et ça, c'est vrai pour un certain nombre de mots-clés, épargne, livret, Cashbee, bref. On fait un peu de sponsoring de contenu dans des médias plus ou moins spécialisés, comme je le disais. On fait aussi pas mal de partenariats avec d'autres startups. En fait, il y a plein de fintechs Aujourd'hui, l'écosystème est assez dynamique à Paris et en France. Il y en a qui bossent dans l'assurtech, il y en a qui bossent dans l'imotech, il y en a qui bossent, bref, enfin, il y a autant de tech que tu veux, mais tous, ils ont un peu quand même quelque part trait à l'argent, à comment est-ce que tu peux soit payer moins cher quelque chose, soit mieux négocier ton prêt IMO, etc. Et en fait, ces gens-là, ils ont aussi des communautés. Et qui sont souvent un peu des communautés connexes aux nôtres, quoi. C'est des gens qui se posent des questions sur comment améliorer ma situation financière ou autre. Et bah ça, en fait, on a beaucoup d'atomes crochus et on communique pas mal avec ces gens-là. Ça marche très bien. Enfin, en tout cas, ça a marché plutôt mieux que ce qu'on attendait d'ailleurs, ce qui est positif et pour ces startups et pour nous.
Bien sûr.
On fait des pubs display évidemment, donc pubs display, bannières, etc. On en fait à la fois sur le web et sur mobile, même si pour être tout à fait honnête avec toi, c'est pas ce qui marche le mieux, mais je pense que c'est pas une surprise pour personne.
C'est pas une surprise, ouais, tout à fait. Ouais.
Voilà. Et puis on fait du CRM, on fait beaucoup de CRM avec de l'automatisation de messages selon ton site, ton moment de vie dans le parcours client. Ça c'est un truc qu'on fait beaucoup. On a aussi un blog très fourni qui s'appelle The Interest, que je vous recommande d'aller lire si vous avez des questions sur les sujets qui touchent de près ou de loin à la finance. Et ça, c'est aussi un canal qu'on utilise pas mal. Un, parce que ça nous permet d'être bien référencé par Google, mais aussi deux, parce qu'on s'est rendu compte que la pédagogie qu'on devait faire auprès de nos utilisateurs, ils étaient très friands de ça, si tu veux. Tout le monde ne lit pas le Financial Times tous les matins. Pourtant, ici et là, il y a un sujet ou deux qui sont très intéressants à communiquer, et nous, sans être un média, on fait un peu les actus sur... Là, on va faire un article sur le groupe de K-pop BTS qui va rentrer en bourse, par exemple. Enfin, tu vois des trucs assez marrants.
D'accord.
Et c'est sympa, ça.
Ouais, effectivement, je suis sur le site. C'est un média, quoi. Enfin, on est vraiment sur un site média qui parle de finance, etc. Mais effectivement, je vois que c'est il y a un peu de tous les niveaux là. Un de vos derniers articles, c'est au fait, c'est quoi le CAC 40.
Ouais.
Et puis l'article d'après, c'est le spoofing ou quand les banques manipulent le marché. Donc il y en a un peu pour tous les niveaux, visiblement.
Exactement. Et en fait, il y en a un peu pour tous les niveaux aussi parce que l'auteur de la plupart de ces articles, c'est Marc, l'un de nos cofondateurs, qui était un ancien banquier d'affaires pendant 20 ans et quelques. J'espère qu'il m'en voudra pas. J'espère que j'ai pas exagéré. Mais du coup, lui, c'est un peu le puits de science sur ces sujets-là chez nous. Et donc, il écrit. C'est une source intarissable de connaissances sur ces sujets-là. Et donc, on l'utilise beaucoup parce que ça intéresse. Alors déjà, nous, ça nous intéresse juste à titre perso en tant qu'employé de la boîte, mais ça intéresse aussi beaucoup de monde. Et on s'est rendu compte que c'était un canal, même si c'est pas un canal direct d'acquisition au sens commercial du terme, c'est un truc qui a beaucoup d'effets positifs secondaires. Et ça, on capitalise pas mal dessus.
Ouais, sur la légitimité de votre action, etc. Les partenariats, c'est hyper intéressant. Surtout que en plus de ça, enfin, c'est comme tu disais, vous faites de l'épargne, vous faites pas le reste, et la plupart des autres startups fintech, elles font le reste, mais elles font pas l'épargne. Donc en fait, c'est hyper logique que vous puissiez trouver le moyen de vous associer, quoi. C'est hyper smart.
Exactement. On a bossé avec des startups qui faisaient de l'IMO, par exemple, et elles te disaient, elles ont écrit un article chez nous, comment choisir un bien immobilier, les erreurs à ne pas commettre. Vice versa, nous, on leur explique comment mettre de l'argent de côté sans se planter, les erreurs à ne pas commettre, ou des trucs comme ça qui sont très très pédagogiques, mais qui marchent à fond.
Hyper intéressant. Et vous faites, t'as mentionné LinkedIn. Alors, c'est intéressant parce que, en canal d'acquisition, c'est intéressant parce que du coup, vous faites du B2C. Par contre, t'as mentionné LinkedIn en canal d'acquisition, qui est plutôt B2B. Est-ce que vous utilisez, alors déjà, un, est-ce que vous utilisez LinkedIn en payant, en paid? Et deux, est-ce que vous utilisez LinkedIn parce que, en fait, votre cœur de cible, comme tu l'as dit, CSP+, etc. Donc, c'est plutôt des personnes que vous allez trouver sur LinkedIn?
C'est un peu les deux, si tu veux. Alors, pour être honnête avec toi, LinkedIn, mais je pense que je ne trahis pas un secret d'industrie en disant que c'est très cher.
Non, effectivement, dans d'autres épisodes en plus, on en parle aussi. Donc
voilà, je pense que tous les CMO de la planète s'accorderont à dire que ça coûte un bras de faire de la pub sur LinkedIn, mais en même temps, oui, comme tu l'as dit, ça coûte un bras aussi un peu pour les bonnes raisons, c'est que c'est souvent là-dedans que tu vas pouvoir trouver de manière très fine des gens qui ont indiqué avoir 20 ans d'expérience et être cadre sup dans des entreprises du CAC 40. Je te donne l'exemple le plus bateau possible, mais en gros, c'est ça qu'on peut faire avec LinkedIn. Aujourd'hui, on n'en fait pas énormément du LinkedIn. On a même plutôt arrêté pour des problématiques simplement de ROI. Hein. C'est encore une fois
ce qui semble logique.
Mais en revanche, on est quand même relativement convaincu par le fait que c'est là que se trouvent les leads les plus les prospects les plus qualitatifs. Donc la réponse, c'est un peu oui. On fait un peu du LinkedIn, on aimerait en faire plus, on aimerait que ce soit moins cher, mais on n'a pas encore tout expérimenté là-dedans. Et en revanche, on n'a pas vraiment l'approche B2B pour répondre à ça, où on va t'envoyer des emails, tu sais, pour dire bonjour.
Ouais, je vois.
Nous, c'est vraiment de la pub un peu classique qui apparaît dans ton feed, etc. On fait, pour le coup, une autre approche qui est moins directe, mais on sponsorise les contenus qu'on publie. Quand on écrit un article passionnant sur, typiquement pendant la période du Covid, il y a eu quand même un krach boursier assez vertigineux. Ça, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas manqué d'écrire en long et en large. Et ça, c'était des articles que les gens aimaient lire parce qu'ils étaient très curieux et parfois pour certains un peu paniqués. Et donc là, ça, on sponsorisait ces articles. Ça n'allait pas générer directement des installations d'appli ou des ouvertures de comptes ou des milliers d'euros déposés. Mais en revanche, ça contribue beaucoup, comme tu l'as dit, à la notoriété et à la légitimité de CashBe. Et ça, c'est pour nous, c'est absolument clé, quoi, parce que on veut surtout pas avoir l'air de la petite start-up un peu bancale à qui tu peux de confier ton fric. Au contraire, on veut montrer qu'on connaît notre sujet.
Ok. Comment est-ce que vous gérez l'attribution entre tous vos canaux?
Alors, l'attribution, là, pour le coup, ça va être une question qui va être forcément un peu technique, mais on utilise un truc qui s'appelle AppsFlyer. Nous, il faut savoir qu'on est vraiment, 95% de notre business, c'est mobile. Les visites sur notre site sont un truc qu'on mesure et qui nous intéresse, mais objectivement, la finalité de tout ce qu'on fait, c'est de générer au moins des installations d'app et puis à terme aussi des dépôts. Et ça, vu que tu peux le faire que par l'app, CashBe, ça n'a pas d'interface web, il faut que ça aille sur le mobile. Donc AppsFlyer, ça fait partie des solutions de tracking qui sont spécialisées dans le mobile.
Le mobile, ouais.
Et à ça, on connecte tous nos canaux, donc des campagnes ad hoc qu'on crée quand on fait des partenariats, les tokens de suivi, enfin les espèces de clés de suivi de Facebook, Twitter, etc., etc. Enfin, je rentre dans un truc un peu technique, mais c'est ça qu'on utilise principalement pour l'attribution. En plus de Google Analytics, mais moins.
Ok, et donc vous laissez AppsFlyer gérer en fait les règles d'attribution.
Alors là, tu vois, on rentre quasiment dans un. Il faudrait qu'Alex, qui bosse avec moi, puisse te répondre à ça parce que c'est assez technique.
Oui. Non, mais de toute façon, l'attribution, c'est très technique.
Ouais, voilà.
Ok. Très bien. Est-ce que tu peux, si on parle un petit peu du branding,
ouais,
est-ce que tu es capable de dire quel a été l'impact du branding sur le business et comment est-ce que vous travaillez le branding et comment vous faites en sorte qu'il ait de l'impact?
Alors, bon, enfin déjà, pour moi, le branding, c'est, pour les raisons un peu énoncées plus tôt, hyper important, aussi parce que c'était un peu le métier que je faisais avant. Mais en fait, comment est-ce que je pourrais l'expliquer? Le branding, c'est-à-dire pas le logo, pas la typo, pas la couleur de ton site ou ce genre de truc. Le branding au sens, le souvenir que tu laisses dans la tête des gens, pour nous, c'est absolument essentiel. Et c'est essentiel pour les raisons évoquées plus tôt qui sont que on est dans un monde où il n'y a pas beaucoup de marques. Quand tu demandes à des gens c'est quoi ta marque préférée, ils vont jamais te donner le nom de leur produit d'épargne. Alors nous, je dis pas qu'un jour on y arrivera, mais en tout cas c'est un peu ça l'objectif, c'est qu'on veut créer quelque chose qui soit un tout petit peu plus génial que l'expérience classique dans ce domaine. On essaie de le faire en ayant une vision forte de notre métier. On va toujours essayer de simplifier les choses au maximum. On va toujours essayer d'absorber la difficulté pour te livrer un produit qui soit le plus fluide possible. On va toujours essayer d'enlever les termes techniques, d'enlever le jargon et la lourdeur administrative ou les délais associés souvent à des opérations financières. Ça, c'est une stratégie qui n'est pas forcément une stratégie de marque, mais plus une stratégie d'entreprise, presque une conviction produit. Et en revanche, on réplique tout ça partout dans tout ce qu'on fait. Donc, on a une charte éditoriale dans laquelle on a rayé en rouge des mots de vocabulaire qui sont interdits. On n'utilise pas de termes pompeux. On essaye d'éviter les formules de politesse à rallonge, les adverbes de partout, les 5 virgules dans une phrase, etc. Ce qui sont souvent un peu les mails que tu reçois. Cher monsieur, eu égard à votre machin, etc. Voilà, ça on oublie, on simplifie les choses. Et ça se répercute aussi dans le design de l'app, ça se répercute aussi dans le design du site, ça se répercute dans chacun des tons de nos emails, des notifications que tu vas recevoir, etc. Et c'est ça pour moi, la marque CashBee, c'est... CashBee, c'est l'appli d'épargne, sauf que c'est simple. Et si jamais on arrive à faire ça, on crée quelque chose de fort parce que les gens vont forcément un peu s'attacher à ce que tu fais. Ils auront du mal à retourner voir les autres parce qu'il y aura cet effet répulsif de « Ah oui, j'avais oublié qu'en fait, c'était un contrat de 20 pages papier à paraffer en bas de chaque page et à signer en bas à droite. » C'est vraiment ça qu'on essaie de faire aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que j'ai dit au boss avant d'accepter le job. Je leur ai dit « D'accord. » Mais on refait tout du sol au plafond. Donc, on retape toute l'identité, on retape le site, on retape les messages, on retape l'app, parce que c'est important, si jamais on veut que ça réussisse, qu'on sorte du carcan solennel et pompeux associé à ce domaine-là. Il y en a qui l'ont très bien fait chez Revolut, qui l'ont très bien fait chez Alan, ils ont quand même réussi à faire le miracle de simplifier la mutuelle, enfin je veux dire, c'est délirant. Il y en a qui l'ont très bien fait chez Shine pour les banques, pour les PME, enfin pour les PME et pour les auto-entrepreneurs. Bah nous, il faut qu'on fasse la même chose avec le même degré de pédagogie, le même souci du détail et qu'on arrête d'être l'établissement financier aux gros sabots que t'as pas envie d'écouter quoi.
Oui, ce serait dommage qu'en fait... Oui, non, si, totalement. En fait, j'ai même envie de dire, quand tu entends l'expression « établissement financier », ouais, ça fait tout de suite lourdeur. Ah. et en fait, c'est vrai que vous, le challenge, c'est de faire en sorte que ce terme-là, il soit associé à vous et que du coup, il soit cool.
Ouais, c'est ça qui est difficile. Et en plus, ne divaguons pas trop là-dessus, mais le... La finance, c'est un domaine qui est très très encadré, qui est très très régulé. T'es un peu toujours forcément à un moment obligé d'appeler un chat, quoi. Donc on aimerait bien pouvoir trouver des synonymes et dire que on arrête de parler de tel terme technique et qu'on le remplace par autre chose. C'est pas exactement factuel, quoi. Donc on est aussi un peu en train de, enfin on est aussi un peu obligé de naviguer là-dedans. Ce qui est très intéressant comme challenge. Mais ouais, comme tu l'as dit, enfin le livret d'épargne, typiquement, livret d'épargne, tu dis ça, tu le cries très fort à une terrasse de resto, les gens vont faire la gueule. Non, mais c'est un peu ça, si tu veux, c'est que ça n'intéresse personne. En fait, si. D'ailleurs, ça, c'est assez marrant parce que quand tu poses la question, est-ce que vous pensez que l'épargne, c'est important? 100% de la population va te répondre oui. Ils savent que mettre de l'argent de côté, c'est important. Ils savent que il faut le faire parce que t'as des projets, parce que il faut savoir se baquer en cas de pépin, parce que j'en sais rien, tu t'as eu un accident ou quoi que ce soit. Mais ils ont tous l'impression qu'ils y arrivent pas bien. Et la raison pour laquelle ils y arrivent pas bien, c'est soit parce qu'ils y comprennent rien, et donc du coup qu'il y a un effet répulsif, soit parce que ils essayent mais ils trouvent pas les produits qu'il leur faut, etc. Bref, ils ont pas trouvé le fournisseur chez qui il puisse aller et se dire ok c'est bon ça y est il s'en occupe je suis chez le bon gars quoi. C'est un peu ça qu'on essaie de faire.
Est-ce qu'il y a tu nous parlais tout à l'heure des partenariats qui vont probablement rentrer dans cette question, mais est-ce qu'il y a des leviers de croissance que tu pensais pas utilisées ou auxquelles tu croyais pas trop et qui ont vraiment bien fonctionné? Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des leviers que tu te disais, non mais ça, c'est bon, ça va cartonner, et en fait, ça a été plutôt un échec?
Alors, un truc qui a très bien marché, dans des proportions auxquelles on s'attendait pas, ça a été certaines parutions presse. On a fait des apparitions dans des médias qui étaient un peu, entre guillemets, confidentiels, et qui ont généré un trafic, mais incroyable. Donc ça, c'était un peu des belles surprises. On a fait, je donne un exemple, je crois que c'était Numérama, mais Numérama, pour ceux qui connaissent pas, c'est un média spécialisé dans la high-tech, qui te fait des reviews de tel téléphone Android, des reviews de telle application, des trucs. D'ailleurs, Numérama, je crois qu'ils sont plutôt iOS, mais bref, en gros, c'est un truc qui s'occupe de high tech, quoi. C'est pas du tout un média spécialisé dans la finance, c'est pas du tout un média qui parle de sujets éco ou quoi que ce soit. Et pourtant, quand on est apparu dans ce truc-là, ça nous a fait des pics de trafic délirants. Donc ça, c'était un des trucs auxquels on s'attendait pas et pour le coup qui marche, enfin, qui a marché. D'accord. Ça n'a pas toujours marché, mais c'était assez intéressant. Ça, je pense que c'est l'exemple du truc qui a été une super surprise. Et ensuite, on a eu des super surprises avec certaines des startups partenaires avec qui on a fait des échanges de visibilité. On a eu des super surprises avec certains médias spécialisés, newsletters, etc. On a pas mal de super surprises en fait. En vrai, je touche du bois, on est plutôt chanceux. Et à l'inverse, un truc qui a beaucoup moins bien marché que ce à quoi on s'attendait, je dirais que pour l'instant, on n'a pas encore totalement craqué Google Ads. Mais pour en avoir discuté avec d'autres gens qui font des métiers un peu similaires, c'est pas rare qu'il faille un peu de temps pour apprendre à domestiquer l'engin. Nous on n'y a peut-être pas encore accordé assez de temps, mais pour l'instant les résultats qu'on fait là-dessus sont pas encore au niveau. On a plein de projets pour justement corriger un peu le tir, créer des pages web spécifiques, etc., notamment. Pour vraiment travailler sur certains mots-clés, augmenter l'autorité de notre site web sur ces sujets-là. Mais aujourd'hui, ça, c'est pas un flop, hein, mais c'est simplement le truc sur lequel on a encore pas mal de projets. Et une autre surprise, mais pour parler du design, je dirais que une surprise négative, c'est que au tout début de l'app, on a volontairement ultra simplifier le processus de virement. Et en fait, littéralement, tu avais une espèce de roulette, un peu comme quand tu choisis l'horaire de ton réveil sur un iPhone, tu sais.
Ouais, je vois très bien.
Tu avais une espèce de roulette comme ça, et puis tu choisissais ton montant, t'appuyais sur un bouton, et pan, c'est bon, tes sous, ils étaient partis. Parce que nous, on s'était dit, personne n'a envie de faire 12 clics pour envoyer de l'argent. Nous, on revendique d'être une app simple, on simplifie au max. En fait, c'était une mauvaise décision. Parce que les gens, ils ont psychologiquement besoin de valider le virement, de confirmer le virement et d'être sûr qu'ils vont faire le virement. vu que c'est de l'argent, tu sais, c'est un peu comme, pour reprendre l'exemple de la newsletter, quand t'envoies, les marketeurs sauront de quoi je parle, quand t'envoies une newsletter à 100 000 personnes et que t'as le bouton sur le truc envoi, t'as le doigt sur le point de cliquer, t'es là, tu stresses, tu dis est-ce que j'ai oublié un truc, est-ce que tout va bien, etc. T'as un peu le même sentiment quand t'envoies de l'argent. Tu dis, est-ce que je suis vraiment sûr d'avoir envie de mettre ça de côté, etc. Et donc les gens auraient préféré qu'on ralentisse artificiellement le processus. C'est ce qu'on a fait dans la nouvelle version de l'app qui est sortie il y a pas longtemps. Aujourd'hui, c'est en plusieurs étapes, etc., où tu peux choisir d'où part l'argent, choisir où il arrive, confirmer le truc, etc. Mais ça, c'était une belle surprise d'expérience utilisateur, en tout cas un retour qui était très très marrant.
Ok, du coup ça me fait penser à une expérience de transfert d'argent. Je sais pas si tu vois l'appli Bankin. Je pense que tu dois avoir l'agrégateur. Ouais. Désormais, tu peux faire des virements à l'intérieur de tes comptes, d'un compte à l'autre. Et je sais pas si t'as des. Enfin, je te recommande d'aller tester l'expérience de virement parce que effectivement, ils te demandent une validation et l'expérience en termes d'UX, en fait, ils te demandent de glisser ton doigt le long d'un truc pour bien valider. Et du coup, c'est une fois que t'as fini de faire le trajet avec ton doigt que ça y est, c'est validé. Et du coup, t'as quand même ce petit temps de réflexion de attends, est-ce que je vais bien au bout du truc. Et c'est en termes d'UX, c'est assez intéressant. Je te recommande recommande d'aller regarder, c'est plutôt malin la façon dont ils ont géré ça.
Je crois que Lydia fait ça aussi d'ailleurs.
Peut-être.
Plusieurs comptes dans Lydia, il me semble que tu peux utiliser cette même technique de je prends l'argent d'une case et je le déplace vers l'autre case.
Ouais. C'est un peu ça, ouais.
Ouais, c'est ça. Mais je peux tout à fait imaginer qu'il y a des gens qui laissent longtemps le pouce au milieu entre les deux.
Exactement.
C'est pas du tout surprenant.
Ok. Est-ce que tu peux nous parler de la team? Combien vous êtes au market et quels sont les rôles?
Alors, on est 13 chez Cashbee au total aujourd'hui. Et dans mon groupe qu'on appellera très largement le marketing, on a deux sous-groupes. On a Delphine et Estelle qui supervisent le support client, la relation client. Alors, il y a toute une partie qui n'est pas du tout du marketing, mais qui est plus de la gestion d'opérations. C'est une team ops au sens qui gère les ouvertures de compte, qui s'occupe des problèmes de transfert quand il y en a, ou d'un certain nombre de petits cas spécifiques qui peuvent apparaître. Je vous rassure, il y a très peu d'incidents, hein, c'est pas du tout
c'est
pas la majeure partie de leur boulot. Et ensuite qui s'occupe aussi de la relation client, et là cette fois-ci d'un point de vue beaucoup plus customer satisfaction, où ils surveillent notre taux de satisfaction, ils envoient des emails, des coups de fil pour s'assurer que tout va bien, que vous êtes heureux chez nous. C'est eux qui récoltent aussi, ils font un peu un travail produit d'ailleurs, c'est eux qui récoltent aussi toutes les demandes qui nous viennent de nos clients, tous les feedbacks. Il y a des gens qui nous disent, typiquement, ce dont je t'ai parlé sur le virement qui allait trop vite, ça c'est un truc qui nous est remonté très fort du support, où les gens disaient, mais attendez, je comprends pas, j'ai cliqué sur un truc et ça y est, mes sous ils étaient partis, comment je fais? Et donc voilà, ça c'est une partie de l'équipe, et l'autre partie de l'équipe c'est plutôt Alex et moi. Alex qui s'occupe du gross comme on dit, et moi qui m'occupe du reste et du design. Enfin, j'alterne un peu entre ces trois jobs là.
Ok, vous travaillez avec des prestats?
On travaille avec quelques prestats, on a assez peu pour le moment. On bosse avec des régies pub pour les bannières mobiles, les bannières web, etc. On bosse avec des réseaux d'affiliation pour avoir du contenu qui parle de nous. Ça, c'est assez classique. On a une agence qui nous aide sur les RP. Je trouve que les RP, c'est quand même un métier qui est assez particulier, quoi. Enfin, tu ne t'inventes pas.
Clairement.
Tu ne t'inventes pas attaché de presse comme ça, quoi. Donc on est accompagné là-dessus. Et ensuite, on a deux super, super, super freelances qui s'occupent, une d'entre elles, des illustrations de notre site, et l'autre du design, enfin du brand design au sens large, c'est-à-dire faire des visuels pour certaines de nos pubs, faire des vidéos, etc. Si jamais vous avez besoin de graphistes, je suis heureux de vous les recommander en MP sur le réseau de votre choix.
Ok, je pense qu'il y en a qui vont pas s'en priver.
Voilà.
super. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton budget, alors sans donner les montants, mais en gros aujourd'hui vos dépenses elles se répartissent comment au niveau market?
Alors mon budget, je peux effectivement pas te donner le montant. J'espère qu'il sera de plusieurs centaines de millions dans quelques années. Aujourd'hui, en termes de répartition, ça fluctue beaucoup. En fait, c'est l'épargne, c'est aussi un truc, on n'en a pas parlé, mais c'est un truc qui est assez saisonnier.
J'allais poser la question, ouais.
Donc typiquement, la rentrée de janvier, c'est là où t'as les bonnes résolutions, où t'as eu ta prime de fin d'année éventuellement, ton 13e mois, tout le bazar, etc. Peut-être que t'as eu aussi un peu d'argent à Noël, enfin j'en sais rien, ça dépend de l'âge que t'as. Mais donc ça, janvier, c'est une grosse phase pour nous. De la même manière, septembre, c'est un peu une autre rentrée, et c'est souvent là où les gens se font un peu des projets, ils reviennent de vacances, ils se disent « allez, c'est parti, là, les prochains 12 mois, je m'y mets, je mets de côté pour mon appart ou que sais-je ». Et ensuite, on a typiquement mars, c'est la période où sont souvent payés les bonus. Donc voilà, on a disons des temps forts sur lesquels on met beaucoup d'argent, en tout cas une part conséquente par rapport à notre budget annuel. Donc en fait, nos postes de dépenses, ils évoluent aussi beaucoup au gré de ces saisons. On va être très dans l'acquisition, donc social ads, bannières, enfin de la conversion pure dans les phases de haute saison. Et ensuite, le CRM va souvent prendre le pas ensuite derrière pour dire ok, maintenant qu'on a récupéré, je dis n'importe quoi, 4000 leads sur le mois de janvier, ces 4000 leads, il faut les travailler. Donc il faut les convertir, les inciter à ouvrir un compte, les inciter à mettre le maximum d'argent dessus évidemment, les inciter à remettre de l'argent dessus s'ils ont déjà mis un peu et que on sent que ils peuvent en mettre plus. Donc ça en fait c'est un peu il y a des vagues qui se suivent quoi. On fait tantôt beaucoup d'acquisitions, tantôt beaucoup de CRM. Typiquement en été on n'achète pas de pub parce que les gens sont à la plage quoi. Donc nous ce qu'on va plutôt faire c'est leur dire mettez de l'argent pendant l'été de côté, comme ça vous serez impec en rentrant en septembre. Et by the way, on vous offre un taux promotionnel ou alors, tu vois, des incentives qui les incitent à faire ça.
Je vois très bien. Là, vos plus gros challenges du moment, c'est quoi ?
L'un des plus gros, c'est à court terme, c'est Google Ads et le SEO. Ça, c'est un truc sur lequel on travaille vraiment pas mal parce que en fait ça prend c'est vraiment un boulot à temps plein le SEO quoi, et vu que on n'a pas véritablement quelqu'un de dédié là-dessus, on y consacre une part croissante de nos calendriers, enfin de nos agendas. Ça c'est à court terme, je dirais Google Ads SEO. L'autre challenge, mais là pour le coup je parle pour moi, ça va être côté produit. Aujourd'hui on est en train de préparer le lancement d'une nouvelle offre qui s'ajoutera au compte d'épargne existant disponible dans l'app. Ce sera une offre qui sera pas une offre d'épargne classique, mais plutôt une offre d'investissement qui prendra la forme d'une assurance vie. Et en fait, ça, on a mis énormément d'efforts dessus ces derniers temps. Et comme souvent dans les startups, on construit quelque chose qui est fonctionnel, mais on prend pas trop le temps de l'optimiser. Donc l'autre challenge, ça va être côté design de produit. Il va y avoir des heures de taf pour peaufiner ce premier jet et faire en sorte que on optimise qu'on améliore de 10% nos taux de conversion d'un point A à un point B, tu vois. Ça typiquement c'est un truc qui me plairait pas mal quoi.
Je vois. Ok, donc ouais, là en plus de ça c'est limite un nouveau business en fait, donc j'imagine que oui ça doit être bien bien challengeant ouais.
Et oui, et l'autre gros challenge, du coup, c'est le lancement de ce produit, accessoirement. Mais...
Oui. Bien sûr. Ok. Aujourd'hui, ton temps, il se répartit comment ?
Il y a 30% que j'attribuerais à du marketing au sens un peu chiffré du terme, c'est-à-dire on fait des analytics, du CRM, de l'optimisation, des analyses de funnel, de la rétention, etc., des campagnes, on mesure le ROI de chacun de nos canaux d'acquisition. Donc ça, c'est du pilotage un peu chiffré. La seconde partie, et je pense que c'est aussi 30% de mon temps, c'est plus de la com et du contenu. Donc cette fois-ci, où on va développer des messages, produire des articles, faire de la pédagogie, etc. Il me reste combien ? Il me reste 40%, je dirais 40%, il y en a 30 qui sont du design, où je crée des pages sur le site web, des écrans pour l'app, où j'optimise des trucs, etc. Et il y a 10% qui sont un peu plus flottants, parfois je fais un peu de support, parfois je fais un peu de satisfaction client, etc. Mais ça change beaucoup, en fait. Enfin, de toute façon, quand on est 10 dans une boîte, enfin 12, 13...
Oui, je me doute.
Voilà, j'ai pas vraiment d'agenda cible.
Oui, et puis là, de toute façon, on voit bien la façon dont se répartit ton temps, qu'il y a déjà des tâches très différentes les unes par rapport aux autres. Donc ça montre bien aussi la polyvalence de ton poste dans une équipe de 13 personnes, quoi.
Ouais, exactement.
Si tu pouvais régler le problème de ton choix sur ton marché ou en interne, ce serait quoi ?
Alors il y a un problème qui n'est pas du tout un problème marketing au sens propre. Il y a un problème, c'est la connectivité de certaines banques à Cashbee. En gros, pour résumer la situation, il y a une réglementation européenne qui est entrée en vigueur il y a quelques temps déjà, qui s'appelle DSP2, et qui impose aux banques d'ouvrir leur système à des applications tierces comme la nôtre. Le petit nom un peu plus digeste de DSP2 qui est utilisé dans le domaine de la fintech, c'est Open Banking. En gros, Open Banking, ça veut dire que les banques, elles créent des points d'accès à d'autres organismes qui vont fournir des services en plus. Typiquement, tu as parlé de banking tout à l'heure, Bankin, c'est un agrégateur de comptes. Donc Bankin, bah, il prend les données qu'il y a sur ton compte dans telle et telle banque, il prend les données que tu as sur un autre compte dans telle et telle banque, et ça te permet d'avoir un centre de contrôle où tu as une vue d'avion sur tous tes comptes au même endroit. Bah, ça, c'est un truc qui est rendu possible par l'open banking, puisque les banques donnent accès, via des API, etc., à des applications comme nous. Le problème, et je suis sûr que c'est un problème que partagent Banking et toutes les autres fintechs qui ont ces sujets-là, c'est que les banques ne mettent pas forcément à jour leur système à la même vitesse. En réalité, pour la plupart, elles sont un peu en retard par rapport aux deadlines imposées par l'Europe. Il y en a certaines qu'on soupçonne de faire un peu de l'anti-jeu volontairement, c'est-à-dire de dire mais on a oublié de mettre les ouais, voilà. Mais donc pour nous, c'est une période très compliquée en ce moment, parce que du jour au lendemain, t'as une banque qui va changer un truc dans son système d'information, et nous, ça va nous débrancher tous les utilisateurs de Cashbee qui sont chez cette banque. Donc c'est pas un truc qui va durer très longtemps, de toute façon c'est la loi, elles vont toutes devoir finir par se mettre en conformité, mais aujourd'hui on est un peu en train de faire du slalom, et chaque jour on se dit yes, un jour où il n'y a pas eu de problème de connexion avec des banques. Et au final, c'est ça qui est très, très, enfin, c'est pour ça que j'ai envie que ça se résolve vite, c'est qu'in fine, c'est plutôt péjoratif, enfin, c'est plutôt dégradé pour nos clients comme expérience.
Ah, bien sûr, ouais.
Toi, quand t'es utilisateur de Cashbee et que du jour au lendemain, tes virements, ils fonctionnent plus, nous, on se fait engueuler parce que les gens croient que c'est Cashbee qui marche plus alors qu'en fait, pas du tout.
Oui.
Mais c'est bon pour personne. Donc ça, on souhaite vraiment que ça se règle le plus vite possible et, by the way, pour nous, Cashbee, mais aussi pour tous les autres acteurs de la fintech.
Bien sûr. Ouais, et puis, on, encore une fois, on parle d'argent. Donc, le moindre petit bug, ouais. tu peux rapidement envisager le pire, en fait.
Exactement. On a dû, un autre exemple de décision produit dans l'app. Avant, on n'affichait pas les transferts en cours. En gros, quand tu faisais ton virement, le montant disparaissait sur la case de gauche et il allait atterrir sur la face de droite à un moment. Ça, c'est ce qui se passe sur 100% des virements dans le monde. À part de très rares exceptions, tous les virements prennent entre 24 et 48 heures pour arriver du point A au point B. Sauf que la différence quand t'es sur Cashbee, c'est que tu te fais un virement de toi à toi. Donc, en fait, pendant les deux jours de battement entre il est parti du point A et il n'est pas encore arrivé au point B, tu te dis, mais il est passé où, mon fric?
je vois très bien, ouais, j'imagine l'expérience. Ouais.
Voilà, et donc ça, je peux te dire que ça nous a vite été remonté par les équipes de Delphine, etc., qui nous ont dit, là, les gars, il faut absolument qu'on affiche un truc en cours, parce qu'il faut qu'il y ait une case où les gens puissent voir qu'il y a bien, effectivement, je dis n'importe quoi, 500 balles qui sont en transit. Donc oui, je te confirme qu'on a pas mal d'exemples où les gens sont un peu stressés, et d'ailleurs ils ont toutes les bonnes raisons de l'être. Hein. Enfin,
ah ouais, carrément.
Il faut pas être indulgent là-dessus du tout. Mais donc du coup, ouais, quand t'as ta banque qui se déconnecte ou quand t'as des trucs, c'est toujours un peu des moments de stress, quoi. Voilà. Okay. Mon vœu pour 2000, j'espère la fin 2020.
Ok. Bon, de toute façon, comme tu l'as dit, c'est la loi. À un moment donné, il va falloir le faire, quoi.
Alors, la mauvaise nouvelle, c'est qu'ils étaient censés être tous. La deadline, c'était déjà septembre, qui avait elle-même été repoussée, puisqu'elle était auparavant fixée à janvier 2020. Donc.
Ah oui, d'accord. Okay.
Donc, ouais. Donc on accumule, là. Mais bon.
On va voir jusqu'où ça va. Ok. Je sors un peu des éléments opérationnels, Cashbee, etc. Comment est-ce que t'expliques ce que tu fais à ta famille?
Alors, très simplement, parce qu'ils sont pas tous hyper digitaux, etc. Enfin, certains oui, mais d'autres non. Je dis que j'aide les gens à mettre plus d'argent de côté et mieux. Ça, c'est un peu la mission de Cashbee, de toute façon, au sens large. Et, et le job du marketing, de la com, de la marque, et du produit d'ailleurs, c'est de présenter au monde extérieur un produit, une face immergée d'iceberg qui soit la plus confortable possible, quoi. Donc quand t'as des gens qui te disent ah oui mais moi je comprends rien, l'épargne c'est quoi ces trucs, attends parce que le taux il est brut, il est, enfin tu vois, toutes les questions que tout le monde est forcément posé à un moment dans sa vie, et ben les exemples ne manquent pas. Souvent pour expliquer à ma famille ce que je fais, je leur cite un exemple pourri, je leur dis bah voilà, bah ça on a fixé ça, ça n'existe plus. Voilà, même ouais, si c'est un peu, on a encore du boulot, hein, mais typiquement le fait de devoir prendre un rendez-vous avec son banquier pour ouvrir un contrat, bah ça c'est un truc qui n'existe plus. Le fait de devoir signer des papiers, c'est 100% digitalisé chez nous. Voilà, il y a pas mal de freins comme ça qu'on essaie de lever, et in fine ça aide les gens à épargner plus et mieux.
Ok, génial. Pour toi c'est quoi du bon marketing?
Pour moi, du bon. En fait, c'est assez bizarre parce que moi, je fais du marketing, mais j'ai tendance à détester le marketing.
Je crois que t'es pas le seul, hein.
Non, mais peut-être que c'est une maladie fréquente, mais je suis terrifié par la gueule des pubs qui foisonnent, qui fleurissent partout dans le paysage actuel. Pas forcément que sur le digital, d'ailleurs. Je pense que le problème du marketing aujourd'hui, c'est qu'il se déshumanise un peu, quoi. On a des pubs de plus en plus tape à l'œil, agressives, des campagnes qui sont presque du harcèlement, on reçoit des SMS, il y a des cookies, des pop-up, tu sais, des notifications à plus savoir qu'en faire. Tout le monde se bat un peu pour avoir son petit morceau d'attention, et c'est particulièrement exacerbé par les réseaux sociaux où, en gros, on consomme de l'info à une vitesse délirante, donc, toi, en tant que marque, t'as moins de temps de parole, il faut que tu sois, du coup, beaucoup plus tranchant dans cette nuée d'infos, dans la surenchère permanente. Alors, je sais que c'est un jeu auquel on est facilement tenté de céder, de dire, bah, ok, bah, puisque le jeu, c'est de gueuler le plus fort possible, moi aussi, j'ai envie de gueuler le plus fort possible. Je pense que le bon marketing, c'est celui qui fait tout l'inverse. Je pense que le marketing qui marche, c'est celui qui commence par la question, qu'est-ce qui intéresse les gens? Plutôt que la question comment je vais maximiser mon ROI, quoi. Et souvent quand tu te poses la question qu'est-ce qui intéresse les gens, tu finis par maximiser ton ROI. La différence, c'est que tu l'auras fait sans casser les oreilles de tes prospects, tu l'auras fait de manière un peu plus paisible, un peu plus calme, certes probablement un tout petit peu plus longue, mais aussi avec plus de ce sera une relation plus pérenne qui démarrera comme ça. Et je pense que ça, en plus, tes prospects, ils mettront certes plus de temps à venir vers toi, mais ensuite ils te seront plus fidèles et ils convertiront mieux et ils te remercieront de pas leur avoir cassé les oreilles. Je pense que c'est ça le bon marketing, c'est ce qu'on essaye de faire. Alors parfois on est un peu commerciaux, hein, parfois on est un peu pushy et on y va nous aussi de nos offres promo et on y va nous aussi de nos relances parce que ça fait partie de la vie, quoi. Mais le bon marketing, c'est celui que t'as envie de montrer à tes potes, quoi. C'est de dire ah regarde, j'ai vu ça, c'est génial, et ça c'est ce qu'on essaie de faire.
Excellent. Le bon marketing, c'est celui que tu as envie de montrer à tes potes, c'est pas mal ça.
Voilà.
OK, dernière question, si tout était à refaire chez Cashbee, tu ferais quoi?
Je pense que c'est un peu un symptôme classique des startups, mais je pense que il aurait fallu qu'on mette en place des analytics plus fins plus tôt. On a eu une période au début où c'était un peu l'euphorie du lancement, c'était le bazar, hein, tout allait un peu dans tous les sens, on apprenait aussi beaucoup, etc. Et en fait, pendant cette période-là, on n'a pas forcément mesuré tout. En fait, pour une raison assez bonne, hein, c'est que tu peux pas savoir ce qu'il faut mesurer tant que t'as pas eu le retour terrain, quoi. Donc, il fallait qu'on apprenne à dire qu'est-ce qu'on a envie de mesurer avant de pouvoir le mesurer. Mais à partir du moment où on a commencé à suivre des stats régulièrement, tout au long du funnel utilisateur, des stats d'acquisition, évidemment, des stats de réengagement a posteriori, des stats de satisfaction client, qu'on envoie après 60 jours pour savoir si tout se passe bien, etc. Bah, tous ces trucs qu'on mesure et qu'on commence à accumuler aujourd'hui, ça change notre manière de réfléchir. Donc, je pense qu'on peut jamais lancer trop tôt un projet d'étude quanti de ce qui se passe à l'intérieur de ta boîte. Là où en revanche il faut toujours être vigilant, c'est de ne pas raisonner qu'avec les chiffres, parce que bah il y a aussi l'humain, il y a aussi ce qu'on appelle le QALY, qui est un peu difficile à mesurer quand t'es une startup, parce que t'as pas de quoi te payer des instituts de sondage, etc. Mais
tout à fait.
Mais qui reste important. Donc ça
c'est là où les équipes support sont particulièrement importantes d'ailleurs.
Exactement, parce que c'est nos oreilles sur le terrain. C'est aussi pour ça que je passe ma vie à lire des mails clients sans forcément toujours y répondre, mais parce qu'il faut garder une oreille attentive à ces trucs-là et pas simplement regarder ton taux de conversion et commencer à raisonner en unité plutôt qu'en vraie personne.
Ok, excellent. Bon, et ben Raphaël, merci beaucoup
pour
toutes ces réponses. Merci pour ton temps. Si on souhaite te contacter, c'est plutôt LinkedIn ?
C'est plutôt... Alors non, moi je vais être honnête, je suis pas un immense fan de LinkedIn.
D'accord.
Mais vous pouvez m'écrire sur raphaël@cashbee.fr.
raphaël@cashbee.fr. Ok, super. Eh ben écoute, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite, un super lancement de votre prochaine solution, plein de succès, et puis j'espère que l'audience aura appris autant de choses que moi aujourd'hui. Donc voilà, si vous avez des feedbacks ou autres, n'hésitez pas à nous écrire. Et puis voilà, je te dis à bientôt.
Eh ben merci beaucoup et à bientôt.
Salut.
Ciao.